Oui, je vous écoute, mais commencez par l'épaisseur, s'il vous plaît. Oui, combien de fois?
Bonjour!
Waouh, waouh, j'ai le vent dans la
langue.
Je suis la femme de Monsieur Jean. C'est une institution thérapeutique. On discute pas que bricolage. On peut discuter philo, cinéma, politique, économie. Toutes les couches sociales peuvent s'y retrouver. Tous les états psychiques aussi, on va dire.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Des lieux comme celui-ci, institution thérapeutique de quartier, où tout le monde peut venir parler de ce qui importe ce jour-là, où ça discute, ça s'engueule, ça rit, où s'atténuent les chagrins et s'entretient le goût de vivre en société, chacun d'entre nous en a fait l'expérience, souvent avec un café ou une librairie, l'échoppe d'un cordonnier, l'épicerie du coin. Mais combien parviennent à survivre aujourd'hui encore ? Dans les grandes villes, comme dans les villages, la disparition de ces petits commerces de proximité a marqué la fin d'un monde dans les interstices duquel il était encore possible de trouver à se réfugier pour un instant ou pour la vie. Bricomont, j'étais située dans le 5e arrondissement de Paris, en face de la Mutualité et de Saint-Nicolas du Chardonnay, intéressant grand écart philosophique pour cette institution thérapeutique. Cette quincaillerie, pas comme les autres, a offert pendant 30 ans café, conseils, discussions, écoute et abri aux clients, amis, voisins, qui y trouvait aussi un espace mental indispensable. Pendant des années, le fils du patron, Samuel Bijaoui, en avait fait un merveilleux terrain de jeu. Devenu grand et agrégé de maths, il a voulu filmer ce lieu au fil du temps pour conserver ses souvenirs, espérant aussi comprendre comment son père, Monsieur Jean, intellectuel, diplômé et engagé, ancien de la gauche prolétarienne, s'était retrouvé là à vendre des clous. 68, Mon père et les clous, c'est un film absolument formidable qui sera en salle mercredi prochain, 1er mai. Bonsoir Jean Bijaoui, je ne vais pas vous appeler Monsieur Jean parce que c'est fini ce temps-là. Mais en tout cas, j'ai l'impression de vous connaître parce que j'ai vu le film de votre fils Samuel, que nous entendrons dans un moment. Ce film qui nous parle à chacun d'entre nous qui n'avons pas vécu votre vie, il vous parle comment ? Comment est-ce que vous l'avez reçu, ce film, comme évidemment une marque d'amour filial, mais ce n'est pas seulement une tranche de vie simplement, ça dit des choses beaucoup plus profondes sur le vivre ensemble, sur la politique, sur l'amitié.
Le film, je l'ai vu trois fois, à chaque fois un peu différemment, parce que tout simplement, se voir, en tout cas surtout pour moi, se voir sur un écran, c'est très difficile, c'est très douloureux même. Mais au fur et à mesure, c'est pour ça que je dis que je l'ai vu trois fois, plus je le voyais et plus je prenais de la distance, évidemment. Et je trouvais deux choses. C'est premièrement que je trouve qu'il est bien, qu'il a réussi son film. Et j'en suis le premier surpris parce que quand je le voyais filmer, je m'interrogeais, je me disais, où il va, qu'est-ce qu'il va faire, comment ça peut marcher, comment il va monter ça, des choses comme ça. Je posais des questions comme ça. Et le résultat est vraiment réussi. La deuxième chose, c'est que je vous disais donc je prends un peu de distance. Et ma première réaction, si je puis me permettre, c'est un peu douloureux, parce que je me suis dit, mais voilà donc un garçon qui, pour régler son problème avec son père, est obligé de faire un film. J'ai dû vraiment être pesant. C'est la première, le premier sentiment que j'ai eu. Je manipule très mal les concepts de la psychanalyse, hein, je veux pas. Mais bon, j'ai bien vu quand même qu'il fallait chacun doit régler son problème avec son père, enfin surtout les garçons en tout cas. Et donc voilà, c'est la deuxième remarque que je me suis faite. Voilà. Après, je suis évidemment extrêmement flatté, heureux, fier, qui ne le serait pas que son fils fait un film sur lui et le présente quand même globalement sous
quand même mec bien, disons les choses.
Oui. Voilà, sous un
donc, jour, c'est donc quand même vous dites régler, héros, ouais, mais quand vous dites régler les problèmes avec son père, vous allez voir, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est au fond plutôt pour vous permettre à vous de dire des choses que vous n'aviez sans doute jamais dites. On va écouter Samuel. Il y a quelques jours, voilà ce qu'il nous disait.
En 2006, j'ai commencé à filmer le magasin, dans le magasin, mais je filmais sans but, sans intention particulière. Plutôt, je prenais des images, comme quand on filme sa famille, ses vacances, parce que ce lieu me captivait. C'était un haut lieu de sociabilité dans le quartier, très théâtral. Il y avait en fait beaucoup de matière presque cinématographique, quoi, qui était devant moi. Et je pense que le film est venu autant à moi que moi à lui. Alors bon, je m'en suis saisi, mais j'ai filmé de façon, on va dire, anarchique, très sporadique, pendant des années. Et jusqu'à ce que un jour, mon père donc m'annonce son intention de vendre la boutique. Et là, je pense que dans ma tête, il y a eu, ça a joué le rôle de catalyseur certainement. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que je reviens systématiquement sur ce lieu? Qu'est-ce que je vais chercher? Et il y a cette question qui a constitué en fait le fil rouge du film. Et qu'est-ce qui a amené cet homme que je sais plutôt intellectuel, diplômé, donc avec un parcours un peu atypique où je savais brièvement qu'il avait participé de façon active à la gauche prolétarienne. Mais qu'est-ce qui l'a amené à ouvrir une boutique de bricolage et à vendre des clous à 40 ans, quoi? Moi, je me souviens, je devais avoir une vingtaine d'années, j'avais invité mon père à prendre un café pour parler de ça, pour qu'il me raconte ce qu'il avait fait. Parce que les seules choses que je connaissais de lui de cette époque, c'était un mot capté lors d'une conversation, un dîner avec des amis à lui, plus ou moins de cette époque, des allusions de ma mère, enfin, mais il était très, très réservé. Je pense que c'est quelqu'un de fondamentalement clandestin, qui n'aime pas parler du tout de lui, et en tout cas, certainement pas de cette période-là. Donc, on avait pris un café, mais j'avais été très déçu parce qu'il s'était réfugié derrière un côté un peu professoral, et puis voilà, il m'avait étalé un peu des faits historiques, et c'était pas du tout ça ce que je voulais, ce que je cherchais. Et j'avais laissé tomber, et en effet, pendant le tournage, fur et à mesure, je crois que la parole s'est déliée. Alors ça n'a pas été tout de suite, mais tout ce qu'il dit face à la caméra, c'est la première fois qu'il me le dit. Et après, d'ailleurs, on n'en a plus parlé parce que j'ai jugé que tout ce qu'il avait à me dire à ce moment-là, il l'a dit, et j'ai pas voulu tout raconter, tout expliquer non plus. Par ce film, et je respectais ces zones d'ombre et ces silences. Et enfin voilà.
Entre autres choses, en tout cas au moins, le magasin pour moi, c'est un abri. C'est un parfait abri. Je l'avoue.
Dans quel sens?
D'une certaine manière, je me mets à l'abri. Eh bien, je suis à l'abri. Je me protège, enfin je me sens d'une certaine manière protégé, je suis à l'abri, j'ai pas de supérieur hiérarchique, je n'ai à répondre de rien, si ce n'est devant l'administration fiscale, bien sûr, mais je suis le tenant et l'aboutissant de tout ce que je fais, quoi. C'est une façon d'être anonyme. Et voilà, moi, j'ai toujours... j'ai cette névrose. J'aime être anonyme. J'aimerais être couleur muraille. Et puis aussi, moi, j'ai besoin... j'aime aussi le travail intellectuel, mais j'aime bien... J'ai besoin aussi de un peu de travail manuel, quoi. De travail physique, quoi. J'ai besoin de m'abstraire comme ça dans un truc très concret.
ça me déplaît pas.
Quand il parle d'abri, je pense que donc ce film tente de répondre à cette question. Qu'est-ce qui l'a amené à ouvrir ce petit monde Fabricomont, j'ai comme une sorte d'incarnation de la vision politique, économique, sociale, sociétale de cet homme. C'est une sorte de continuité et je pense que ce qu'il a créé, en effet, on peut peut-être retrouver dans les rapports humains ou au travail ou quelque chose de ces idéaux brassés par 68. Il y a peut-être ça dans Bricomont, je crois.
Jean Bijaoui, vous disiez tout à l'heure que Samuel avait probablement, en faisant ce film, voulu régler ses comptes avec son père. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai ressenti, surtout en l'écoutant. J'ai l'impression qu'il s'en est servi aussi pour vous permettre de lui dire des choses que vous n'aviez jamais abordées. On sent que vous, d'ailleurs au début, quand il vous pose des questions, vous le mettez un peu à l'écart, vous ne répondrez pas à des questions personnelles, dites-vous. Et puis finalement, à force, vous finissez par lui dire des choses que vous ne lui aviez jamais dites. Pourquoi est-ce que vous ne lui aviez jamais dites, alors que vous êtes resté fidèle à vos idéaux ?
D'abord, je reviens. L'expression régler ses comptes n'est pas, elle n'est pas péjorative. C'est pas au sens régler un conflit. C'est pas ça que je voulais dire. C'est, en effet, simplement, il y avait des questions que je sentais bien, d'ailleurs, de sa part, et que il fallait bien qu'un jour ou l'autre, je réponde un petit peu, au moins un petit peu. Et j'ai senti très vite que le film s'allait, enfin. Pas très vite, mais à un moment donné, en effet, avant même qu'il m'en parle, j'ai senti que c'était vers là qu'il était en train, qu'il allait m'amener. Bon, et je me suis dit, là, ça serait pas juste de reculer ou d'esquiver. Je le ferai, quoi. Je m'exécuterai. Enfin, dans la mesure de, dans les limites de mes possibilités.
Mais il y a une expression que vous employez et qu'il a relevée d'ailleurs à juste titre, c'est quand vous dites, Jean Bijaoui, que ouvrir ce magasin de bricolage, alors que vous étiez destiné, disons, comme les intellectuels, à enseigner, ou vous avez fait du cinéma avec Yoris Ivens, tout d'un coup, c'est un pas de côté, hein, ce que Kafka appelait faire un bond en dehors du rang des assassins, tout d'un coup, vous faites autre chose, vous faites ça, ce lieu, vous créez ce lieu qui vous ressemble, sans doute, qui vous satisfait d'une autre manière, mais qui vous met à l'abri. Et là, on sent une blessure dont beaucoup d'hommes et de femmes qui ont vécu ces années-là ont gardé la trace, une blessure de rêve non accompli. Ça a été un abri pour vous, c'était important.
Oui, c'est j'assume le mot, enfin, je veux dire, je l'ai prononcé et je l'assume totalement. Alors, de deux manières. D'abord, en effet, comme vous venez de le dire très justement, et pas souvent des gens disent ça. Moi en tout cas, et bien d'autres, quand on est sorti de cette séquence, il faut bien le dire, on était un peu sonné. En tout cas, j'étais très sonné. C'est un peu comme, toute proportion gardée, mais je crois que je le dis, enfin je le dis à un moment dans le film, c'est comme... toute proportion gardée avec des tonnes de guillemets, mais comme tout d'un coup on passe de la guerre à la paix et que ou de la mobilisation à la démobilisation et qu'on se retrouve comme ça, comme le... bref. Donc j'étais un peu comme d'autres assez sonné en effet et ça c'est une chose. J'étais absolument incapable en effet d'entrer, de mettre mes pas dans des pas, disons, du travail, de la hiérarchie, enfin comme ça, quoi. J'en étais pas capable. C'est pas quelque chose que je revendique comme une position idéologique. Simplement, je ne pouvais pas. De façon plus générale, ça c'est bon, c'est moi. Je ne supporte pas l'institution, quelle qu'elle soit. C'est comme ça. Et donc, un peu le hasard, c'est des rencontres comme ça, m'ont conduit à une espèce de lieu, à faire un travail dans un lieu où, encore une fois, je suis à l'abri donc, de tout ça, et en particulier de l'institution. Voilà, moi, même rentrer dans une poste, pour moi, c'est je commence à m'énerver. Et pourtant, les gens qui travaillent à la poste sont charmants, tout le monde. C'est idiot, mais enfin, c'est bête sans doute, mais je ne supporte pas l'institution et donc j'ai toujours eu beaucoup de mal à. Et je suis incapable de, voilà, de travailler dans un, dans une structure donnée. Voilà.
C'était aussi sûrement, Jean Béjaoui, un moyen de rester fidèle à soi-même, à ce qu'on a été à 18, à 20 ans. On vous écoute.
C'est quoi le regard que tu poses sur cette période maoïste?
Je ne comprends pas la question.
Tu fais semblant de pas comprendre.
Oui, non, ce n'est pas une question. Ça veut dire.
Tu fais semblant, là.
Oui, non, je ne comprends pas la question.
Tu réponds comme un politicien, là.
Oui, mais je ne comprends pas. Posez-moi une autre question, plus précise. C'est-à-dire le regard.
Tu finis toujours comme étant maoïste, alors?
Sans doute.
C'est vrai?
Sans doute. Quelles que soient les divergences, on était dans les mêmes dispositifs. Les classes, la lutte de classe, la prise du pouvoir, la révolution, c'était là. Comment dire,
la base.
Le socle, l'axe, comme une structure mentale, quoi.
C'est on croyait quasiment. Tous à la prise du pouvoir et
c'était
et
comme ça qu'on raisonnait. Mais ça, tout à fait.
Vrai,
mais
voilà. Il y avait un désir commun. Ça, je suis d'accord. Plutôt que de concept, je parle d'horizon imaginaire, de désir et des choses comme ça, c'est-à-dire rêver d'une société égalitaire, plus juste.
Et aussi même de pensée politique. On pensait la politique comme
Oui, on pensait la politique à partir de l'analyse marxiste. On est tous d'accord là-dessus. Mais je vois bien à quel point j'ai, sur certains plans, j'ai été complètement naïf, tu vois.
Des oui, mais ça fait rien.
Ah, mais j'ai aucun regret.
Ah,
bien sûr.
Voilà,
non. Ni honte, ni regret. Ah, ça, c'est sûr.
Voilà. Mais on peut quand même avoir un point de vue sur ce qu'on a vécu et ce qu'on a été.
On peut juger les choses que de l'endroit où on est. Ça n'a pas beaucoup de sens de dire de façon comme ça, après, ah oui, ben oui, et après quoi. La seule question qui serait valable, en effet, c'est celle-là. C'est est-ce qu'on regrette, est-ce qu'on ne regrette pas, est-ce qu'on assume, est-ce que si on avait su, est-ce qu'on aurait fait la même chose? Tu vois, des questions un peu cons comme ça.
Ouais, elles sont pas si cons que ça, mais.
Jean Béjaoui, on vous entend parler là avec Claude Evenot, qui est devenu écrivain, qui est d'ailleurs passé dans cette émission qu'on connaît. Et effectivement, l'AGP, enfin la gauche prolétarienne, a été dissoute en novembre 73. Beaucoup d'anciens de l'AGP ont fait de belles carrières. Et d'ailleurs, l'année dernière, avec ce 50e anniversaire de mai 68, Dieu sait si on a vu à quel point la reconversion ne posait pas de problème à grand monde. C'est d'autant plus important de trouver des gens qui, au fond, ne se sont pas remis de leur jeunesse. Est-ce que vous le diriez comme ça?
Comme j'essaie de répondre, c'est partiellement vrai. À moitié, c'est vrai, pour ce qui me concerne. À moitié, c'est vrai. À moitié, comme je vous le dis, c'est bon, je suis comme ça. Mais pour revenir à ce que vous dites, les gens qui ont réussi... ceux qui ont réussi leur reconversion, c'est une... Enfin, il ne faut pas rêver, c'est une infime minorité. Et je ne dirais pas qu'ils ont réussi leur reconversion. Ils auraient réussi... Je veux dire, ils auraient... Bon, je pense surtout, je ne pense pas à Claude, évidemment, mais je pense surtout à ceux qui se sont engagés dans les allées du pouvoir. Mais cela, mai 68, il ne les a pas fait. Ils n'ont pas fait davantage mai 68, enfin pas plus, en tout cas, sinon plutôt moins que les autres. Et ils auraient de toute façon fait ça, parce qu'ils en avaient probablement le talent, l'envie, l'énergie, etc. Pas moins. En aucun cas. Voilà, je suis pas capable de répondre à la question, mais qu'est-ce que j'aurais fait, socialement parlant, s'il n'y avait pas eu cette séquence politique qui a duré quand même assez longtemps pour des gens comme nous, qui a duré quand même 8-10 ans, quoi. Voilà.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding by.
Drudge Avenue. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. For me and my Bobby McGann. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby, baby, kept me from the whole world. To mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, and that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy down when he sang the blues, hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby.
Vagabonde sur France Inter.
Il y a des copains qui a, pour qui la sortie de cette période a été très rude, où ça s'est très très mal passé.
C'est-à-dire ?
Il y en a qui se sont suicidés. On était comme un peu désemparés, faut bien le dire, et un peu, tu vois, pas sans savoir trop quoi faire. C'est un peu comme ce qu'on appelait au 19e siècle, au début du 19e, la période révolutionnaire, les demi-soldes. C'était un peu comme un demi-solde. Comme les démobilisés, là, dans les romans de Balzac. C'était un peu, enfin moi je me sentais un peu comme ça quand même, je dois le dire.
Jean Bijaoui, c'est vrai que ceux qui n'ont pas supporté, on s'en souvient. Bon, il y a des noms qui sont passés, disons, à la célébrité. Michel Recanati, il y a Robert Linard qui en a perdu la parole. D'ailleurs, Virginie Linhart a fait un film formidable sur mai 68 et ses parents. C'est vrai que pour la génération d'après, ça a été souvent un chemin à faire d'eux-mêmes pour aller au-devant des explications qu'ils obtiennent de temps à autre. Comme quoi, il est difficile de parler de quelque chose qui, au fond, dès qu'on aborde le sujet, est toujours resté vivant en nous, en vous. Ces souvenirs-là, c'est pas passé.
Oui, mais oui, c'est vrai. C'est un contexte. Oui, je suis d'accord avec vous, bien sûr. Il y a autre chose, je crois, plus radical, qui fait que c'est, on peut pas en parler. C'est que tout bêtement. Des occurrences comme ça, enfin des événements comme ça, comme mai 68, et il y en a tous les deux siècles. Il y a quelque chose d'innommable dedans, et surtout quand c'est passé, enfin je dis tout pêle-mêle, hein, mais quand c'est passé, et on ne peut en fait en parler que dedans, que quand on est dedans. Ou alors, il y a ceux qui font des analyses et qui disent, qu'ils analysent. Alors, ils disent, il y a le mai 60, le mai des étudiants, le mai des ouvriers, il y a ceci, il y a cela, c'est une révolte anti-autoritaire, c'est, enfin bref, peu importe. Il se passe, je pense que quand on se met à parler comme ça, on est totalement à côté du noyau dur. Et le noyau dur, je crois que passer l'événement, c'est fait, on peut pas, c'est insécable, je sais pas comment dire, ça fait un truc comme mai 68, c'est un espèce de noyau insécable que, même s'il est, y a de l'hétérogène dedans, évidemment, et après, on peut pas en parler. Enfin, on peut pas, c'est très difficile d'entrer. En particulier, je pense, pour mai 68, qui marque vraiment, je crois, c'est la fin d'une immense séquence que certains peuvent faire commencer en 1792 à la Révolution française ou à 17 ou à, je ne sais pas ou à la Commune de Paris ou j'en sais rien mais enfin une espèce de comme ça de très très grande séquence là qui se termine voilà après 68 on est dans le siècle d'après je pense
mais c'est ce qui l'explique le mieux sans doute c'est le film de Chris Marker qui s'appelle Le fond de l'air était rouge.
Oui.
Parce que ça montre que partout dans le monde, il s'est passé ça, et qu'effectivement, après, on est passé à autre chose.
Oui. Le 68 français est quand même... on peut en discuter, c'est d'autres discussions. Mais il y a quand même dans le 68 français une singularité, je dirais, j'ai envie de dire une profondeur, mais bon, c'est un peu normatif, c'est pas très juste, mais qu'il n'y a pas dans les autres, qu'il n'y a pas eu dans les mouvements de jeunesse qu'il y a pu y avoir au Japon, aux États-Unis ou en Allemagne. En particulier, je pense, ce mouvement dont l'âme, ça a été quand même... l'unité totale du peuple français, du peuple, ça veut pas dire toute la population, évidemment. Je dis bien du peuple français, et en particulier, cette unité, ouvrier-étudiant, ça c'est absolument singulier. Je dirais quand même, tout le monde a pu le voir, des cohortes d'ouvriers qui ont débarqué au quartier latin, parce qu'on parle toujours des manifestations étudiantes vers Flins ou vers Billancourt, mais tous les ouvriers qu'il y avait au quartier latin, il faut pas raconter d'histoire, les barricades, et ça, il y avait pas que des étudiants, enfin, je sais pas où ils auraient pu être si nombreux. Donc, voilà, ça, je pense que c'est vraiment une singularité.
En tout cas, pour revenir à votre abri, Jean Bijaoui, à ce Bricomonge qui a fermé ses portes maintenant, on comprend assez bien, au fil du film de votre fils, Samuel, ce qui a pu vous y conduire et surtout comment vous avez su y créer une petite société à votre image et à celle de vos amis, notamment celui qui éclaire la fin du film aussi, qui s'appelle Daniel Veil. Et la discussion que vous avez tous les deux, je crois qu'elle apporte toutes les réponses que Samuel était venu chercher.
Sans doute cette époque ou ce moment-là a joué un rôle fondamental dans la vie de Jean comme dans la mienne, mais on s'est, comment dire, on est des marginaux. On l'était à ce moment-là, on l'est resté, c'est-à-dire ça nous a mis en face de l'impossibilité en tout cas moi d'une action collective qui m'intéresse plus du tout. Et donc, j'ai dû, et je pense que Jean aussi, mais il va répondre, j'ai dû me frayer un chemin, inventer un chemin pour me frayer une vie, voilà, la vie de quelqu'un qui est un peu à la marge.
Il faisait partie des jeunes espoirs, des quelques rares jeunes espoirs de la mathématique française. Mais c'est pas, non, mais c'est pas inintéressant, parce que en effet, il appartient à cette génération, probablement la dernière, des mathématiciens, comment dire, un peu anards, un peu révoltés, rebelles, etc., non-conformistes, tout ce qu'on veut. Et que ça, c'est vraiment de cette époque, ça a disparu.
Je me sentais mal. En tout cas, mai 68 a eu pour moi... Et je pense, quand même, on est tous les deux dans des situations très particulières. Moi, je suis marchand de viande aujourd'hui, et Jean est marchand de bois. Donc, ça consiste en fait, c'est pas, je pense que ce n'est pas une décision, je pense que c'est un pas que tu fais, et puis il faut faire un pas suivant et un pas suivant.
C'est exactement ça.
Et c'est tout, c'est ça le chemin. Ouais.
Formidable personnage que Daniel Veil, votre ami, qui raconte qu'au fond, lui aussi, il a trouvé sa place à côté de cette voie tout tracée, parce que c'était un crack en maths.
Oui, exactement. Et je ne sais pas trop quoi dire, si ce n'est que c'est vraiment un ami proche, que je l'aime beaucoup. Et j'aime bien. La plupart de mes amis, en fait, sont souvent un peu comme ça, en ce sens que ils ne sont pas que ce qu'on attend qu'ils soient. Ils sont un petit peu à côté d'eux-mêmes. Je sais pas comment dire. Ils sont totalement eux-mêmes, mais hors de cadre qui serait imposé par. Je ne sais pas. Voilà.
Du coup, est-ce que cette expression que j'employais au début en disant vivre dans les interstices du capitalisme, au fond, est-ce que c'est un peu ça qui vous ressemble à l'un comme à l'autre?
Le mot interstice convient du capitalisme, non, parce qu'on est dans le capitalisme,
oui.
Donc on n'est pas dans un interstice du capitalisme, ni moi et lui encore moins, qui est dans les grandes affaires. Moi, j'étais dans les toutes petites affaires, mais on n'est pas dans les. On est dans le capitalisme absolu. Il faut pas. Mais interstice, le mot est juste, c'est-à-dire que. Mais vous voyez, hein, vous-même, vous dites interstice, et moi je disais abri. C'est un peu la même chose. Je fais la place. Finalement, la seule place que j'ai pu prendre, voilà, que j'ai pu faire, c'est tout ce que je peux dire.
En tout cas, cette place, Jean Bijaoui, elle a
J'aurais
été importante.
Pas pu en prendre d'autres.
Elle a été importante pour les gens qui ont travaillé avec vous, parce qu'ils ont une belle place dans ce film. On les voit. Il y a José, il y a Mangala, il y a Kwong, il y a Zora, et tous ces gens, finalement, pour eux, Bricomanche, ça a été mieux qu'un interstice. Ça a été un monde à l'abri aussi, un peu de la dureté, parce que pour certains d'entre eux, ils ont obtenu leur papier, ils ont eu leur première paye. Ça a été quelque chose d'important. Ou disons, le poids, justement, la sauvagerie du capitalisme a été atténué.
C'est la vie. Il m'a arrêté. Et moi, j'ai sorti avec mon cœur tout de suite. Je suis content pour lui. C'est tout. Peut-être j'ai perdu mon magasin, c'est tout. C'est la vérité qui sortit. Et pourquoi je gêne? Et je n'oublie jamais parce que j'ai eu mon papier, tout ça. Grâce à Bricomanche, il n'y avait pas papier avant. C'est John qui m'a signé le papier. Et j'oublie tout ça, j'oublie jamais, c'est tout. Voilà. Pour moi, il y a, bon, il y a quelque part quelque chose, le magasin Bricomanche, c'est tout. Premier franc, j'ai touché ici et j'ai oublié jamais.
Ton premier franc.
Voilà, c'était franc, c'était quoi. Et ça ne m'oublie jamais. Voilà. Et cette franc, j'ai oublié jamais non plus et ça m'a emporté bonheur.
À la fin de 68, Mon père et les clous, Jean Béjaoui, on vous voit fermer la porte, c'est fini, vous avez vendu. C'est un petit supermarché qui a remplacé. Au fond, vous êtes sorti de l'abri, ou bien vous. Voilà, le fait d'avoir arrêté, c'est rester quand même d'une certaine manière encore en dehors.
Oui. Je veux dire, le magasin, c'était aussi une, c'était aussi, c'est d'abord aussi une façon de résoudre la question économique. Il faut bien aussi gagner un peu de sous et vivre. Donc c'était ça aussi le magasin. Aujourd'hui, la question se pose beaucoup. Ouais, elle se pose plus pour moi. J'ai vendu, j'ai ma retraite, un peu l'argent de la vente, et puis voilà.
Et vous avez un fils qui, agrégé de mathématiques, on en revient encore aux mathématiques, qui, où il y a toujours un peu des germes comme ça de faire des pas de côté, d'être différent. Il m'a dit, à la fin de notre entretien, que, au fond, le cinéma, finalement, il aimerait bien continuer.
Ah, j'en serais ravi, plus que ravi. Parce que je suis un grand cinéphile, j'aime beaucoup le cinéma. Quand il était petit... j'ai pris soin, j'ai bien veillé à son éducation cinématographique. J'ai bien fait attention aux films que je l'amenais voir et très tôt. Et enfin voilà. Donc oui, je suis ravi. Et je pense qu'il peut le faire parce que son film est tout à fait réussi.
Il est hautement recommandable. 68, Mon père et les clous. Ça sort mercredi 1er mai. Jolie date pour ça. Ça sort en salle et c'est un film de Samuel Bijaoui, le fils de Monsieur Jean, qui nous a fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Merci à vous. Au revoir.
Au revoir. Merci.
C'est fini pour l'humeur vagabonde de ce jour. Nous nous retrouverons dans une semaine, mais bien sûr, France Inter continue, puisqu'après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Julia Foyce et son Babel sur scène. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter, bien entendu.